Je suis avec le coach de la Team Betclic. Coach, un mot sur le match.
Les joueurs ont validé leur pari, le bon plan du soir est passé.
Eh oui, on vous sent touché là.
Ah, c'est les émotions, oui.
Tu as gagné ton pari sur l'app Betclic et tu veux profiter dès maintenant de ta victoire? Grâce au virement instantané Betclic, reçois tes gains sur ton compte bancaire en à peine quelques minutes. Disponible seulement sur Betclic. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Il n'y a pas de tension, hein. Tranquille.
Allez, Nico, ciao.
Il me regarde. Question suivante.
Je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités.
Les gens doivent arrêter d'avoir peur. Le foot, ça se joue sur un terrain. Il faut arrêter d'avoir peur. On est bon.
Il n'y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça veut rien dire, ça. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
François Pinet.
Il est 23h, vous écoutez RMC, c'est parti pour l'after jusqu'à minuit en direct avec Roland Courbis. Salut coach.
Salut les amis.
Et Kevin Diaz est là, salut Kevin.
Salut à tous.
On va revenir sur ce PSG Le Havre, évidemment. Un PSG Le Havre à rebondissement, 3 buts partout, score final entre les deux équipes. Supporters du PSG, on vous attendait maintenant au 32-16 avec Adrien au standard, supporter du Havre. Aussi parce que vous êtes passé sans doute par toutes les émotions après cette rencontre. Le Havre qui menait 3 buts à 1 et finalement le PSG a arraché le match nul. 3 buts partout, le PSG qui n'est pas champion officiellement ce soir, qui pourrait l'être demain. En cas si Monaco n'arrive pas à battre Lyon demain, ça sera à suivre sur RMC. Bien sûr, les Havrais qui sortent la tête de l'eau pour l'instant provisoirement 15e devant le Football Club de Metz. Le hashtag RMC Live sur X, l'appli RMC Direct Studio, et puis nous sommes également en direct sur YouTube, vous le savez, alors venez nombreux sur le chat pour poser vos questions, pour réagir à l'émission. Et puis bien évidemment, on salue tous ceux qui nous écoutent ce matin, cet après-midi, si vous nous écoutez actuellement en podcast. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux et on vous en remercie. Et puis Polo Breitner nous rejoint dans l'after aussi dans un instant pour nous donner des nouvelles du Borussia Dortmund, balayé 4 buts à 1 par Leipzig aujourd'hui. Hummel s'est sorti sur blessure, on aura toutes les infos. Le Borussia qui n'a pas vraiment très bien préparé sa demi-finale de Ligue des Champions contre le PSG. On parlera aussi, parce que j'y tiens, de ce Bayer Leverkusen renversant contre Stuttgart. Le Bayer Leverkusen était tout proche de perdre son premier match de la saison, toute compétition confondue, et ils ont finalement arraché à la dernière seconde le match nul de but partout face à Stuttgart. Le Bayern a battu l'Eintracht Francfort 2-1 grâce à un doublé d'Harry Kane. En Italie, il y a eu un choc également aujourd'hui entre la Juve et Milan. Score final 0-0 lors de la 34e journée de Serie A. Johan Crochet viendra nous parler des deux équipes qui vont sans doute changer de coach et peut-être changer d'air à partir de la saison prochaine. En Angleterre, des résultats à vous donner. La 35e journée avec le match nul de Liverpool contre West Ham, 2-2. Liverpool qui a sans doute définitivement perdu le titre. Manchester United et Burnley s'est terminé sur le score final de 1-0. Newcastle a écrasé Sheffield 5-1. Sheffield officiellement relégué. Et puis 2-0 entre Aston Villa et Chelsea. Ça joue encore quelques secondes. 2-0 entre les deux équipes. En Espagne, 33e journée, l'Atlético de Madrid face à l'Athletic Bilbao. Et bien pour l'instant, c'est terminé d'ailleurs sur la victoire de Madrid. 3-1, victoire importante puisque l'Atlético de Madrid conforte sa 4e place qualificative pour la Ligue des Champions. Et puis Gérone a repris provisoirement la 2e place au Barça en battant Las Palmas 2-0. Le Barça qui joue lundi contre Valence. Voilà pour les résultats importants à retenir de cette journée. Mais l'important, vous le savez, c'est autre chose.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Et on va commencer, si tu le veux bien, Kevin, par tes 3 points.
Bah écoute, il n'y a que moi qui fais 3 points, donc je vais commencer. Le premier point, c'est... j'ai envie de dire, je vais commencer par le Havre parce que ce soir, ça aurait pu être une très très belle soirée pour les Havrais qui auraient pu s'imposer vraiment au Parc des Princes alors que c'était encore inespéré, hein, même si le Paris Saint-Germain, et j'en parlerai dans mon troisième point, avait fait une rotation. C'est donc le deuxième point avec cette rotation imposée par Luis Enrique. Ça marche en Coupe d'Europe. C'est quand même très particulier. Hein. On a souvent ce débat-là avec Walid. Moi, je trouve que ça marche très bien parce que cette équipe, elle perd forme dans la plus grosse des compétitions qui est la Ligue des Champions, et puis surtout en Ligue 1 ils sont leaders. Mais ce sera mon troisième point, ça reste quand même très particulier. Et le président du Havre qui s'était plaint de la rotation face à Clermont, qui avait permis aux Clermontois d'avoir des points, et ben là il en a un, il a bien failli en avoir trois aussi.
Oui, alors c'était pas tout à fait, on a dit pendant la rencontre, la même équipe que contre Clermont.
Non, mais il a quand même des choix, sortir des joueurs à la mi-temps, puis sortir à la 60e. T'es en match de préparation au mois de juillet, tu fais la même chose. Tu sors des mecs à la mi-temps, en plus de mecs qui n'étaient pas forcément ultra mauvais, quoi.
On verra d'ailleurs si c'était prévu.
Dans une gestion d'effectifs.
Et ce qui sera intéressant, c'est de l'entendre là-dessus, Luis Enrique, s'il accepte de répondre. Mais il va passer en conférence de presse et on essaiera de vous dire ce qu'il a dit sur notamment sa rotation. Coach, tes deux points du soir.
Ben disons que bon, c'est très bien qu'il y ait eu match nul, comme ça évite les mécontents, parce qu'on se met un petit peu à la place de certains clubs qui jouent le maintien. Donc match nul contre Clermont, match nul ce soir. Mais c'est vrai que vu le scénario, si tu es Le Havre, que tu as besoin de points, que tu as 3 points, que tu te retrouves au 3-1 et qu'encore un peu à la dernière minute tu as même failli perdre 4-3, bon, mais c'est difficile de faire un commentaire. En ce qui concerne après notre championnat, je maintiens ce que je dis et que j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est que il est passionnant pour le haut, il est passionnant aussi pour le bas. Donc on va attendre avec impatience les matchs de demain. On est encore loin des surprises qu'il peut y avoir.
Alors, plein de questions évidemment avant cette demi-finale de Ligue des Champions concernant le PSG face au Borussia Dortmund. On aura l'occasion d'en reparler avec Paulo Breitner d'ailleurs de Borussia Dortmund. 32-16, hein, supporter du Paris Saint-Germain pour nous rejoindre, supporter à vrai. On va parler aussi de cette lutte pour le maintien dont parlait coach, qui est passionnante, hein, puisque le FC Metz, qui est désormais à égalité mais à la différence de but, c'est Le Havre qui est devant Metz ce soir, joue contre Lille demain à 13h. Et on parlera de cette équipe havraise qui a un calendrier assez costaud pour la fin de la saison, mais qui a peut-être de bonnes choses à retenir de ce match nul au Paris Saint-Germain. Le PSG qui fait donc 3 buts partout contre le Havre. On a dit, Kevin, pendant la rencontre, qu'ils avaient sans doute la tête ailleurs. Est-ce que c'est un argument qui se tient pour toi ?
Honnêtement, le Paris Saint-Germain, c'est pas facile à analyser. Pas facile à analyser, parce que moi, je les ai trouvés plutôt bons dans les 20 premières minutes. En tout cas, avant l'ouverture du score du Havre.
Ils ont poussé un peu, ouais.
Non, ils ont été bons. Il y avait des cheminements, il y avait du rythme dans les passes. Et là, je me suis dit, bon, bah, Luis Enrique, non seulement il prépare sa demi-finale de Ligue des Champions contre Dortmund, mais il prépare aussi vraiment l'année prochaine, puisque l'année prochaine, selon toute vraisemblance, même si on ne sait jamais dans le foot, il devrait jouer sans Kylian Mbappé. Ouais. Et c'était une équipe du Paris Saint-Germain qui était vraiment pas mal. Ensuite, les événements dans ce match ont fait que on a vu une équipe du PSG en difficulté au score, qui les a fait un peu bafouiller leur football. Maintenant, c'est toujours difficile parce que la gestion de Luis Enrique, que je disais, qui est quand même, moi honnêtement, ça me pose pas de problème. Ils gagnent pas ce soir, mais ils gagnent les matchs qu'il faut gagner. Et puis surtout, ils ont un matelas confortable et ils vont gagner la Ligue 1. Donc, il fait tourner, mais c'est quand même très rare d'avoir vu un entraîneur autant faire tourner, je le disais, quasiment comme si c'était une équipe en préparation juillet-août qui est en train de gérer les temps de jeu comme font des fois les sélectionneurs avant l'Euro, c'est 45 minutes.
Quand tu parles de tourner, c'est pas forcément sur l'équipe de départ,
c'est pendant la rencontre, on est là pour faire rentrer des joueurs pour qu'ils aient du rythme. Mais après, c'est des joueurs qui ont énormément de qualité, mais finalement ils sont quand même en grande difficulté puisqu'ils perdent 3-1 à 20 minutes de la fin. Ils ont assez de qualité individuelle pour revenir, et finalement tu te dis que bah comme souvent, en tout cas tu vas attendre pour juger le Paris Saint-Germain du match de la semaine prochaine contre Dortmund. S'ils font la même chose qu'à aller contre Barça, tu diras c'était pas terrible cette semaine. Si finalement ils battent le Barça comme au retour, tu diras très bien, bravo Luis Enrique. Donc plus que jamais, c'est les résultats qui vont parler, parce que aujourd'hui dans le jeu et dans l'analyse technique tactique, il y a tellement de changements, c'est difficile de retrouver un patron, même si on sait que Luis Enrique travaille beaucoup de choses et on n'est pas forcément au courant de tout.
Sur la composition de départ, par rapport à celle de Lorient cette semaine, il n'y avait qu'un seul joueur en commun sur la compo de départ, je dis bien, c'est Dembélé, le seul qui avait été reconduit.
Et quand même, on est dans une préparation estivale où tu fais un match sur deux, ou alors tu joues que 45 minutes, 60-30 pour certains. On est vraiment là dans
Après, t'as pas de blessé, donc ça joue aussi. Voilà,
donc c'est pour ça que je te dis, c'est pas facile à analyser, mais moi c'est pas une critique, c'est un constat. C'est assez particulier, mais tant que ça marche, bravo.
Mais il y a une gestion quand même d'un groupe qui est tout simplement extraordinaire, pas seulement en qualité, mais en quantité. Donc, moi, au lieu de parler du dernier match contre Lorient, combien il y avait de trucs, ça m'intéresse ce que vous dites. Mais ce que je regarde surtout à chaque match, c'est la composition d'équipe qui démarre le match. Après, les cinq changements dans l'époque que nous vivons. Et ensuite, je regarde et je prends peur quand je vois la dizaine de joueurs et la qualité de la dizaine de joueurs qui se retrouvent sur le banc. Donc, que Luis Enrique gère ce groupe-là en faisant les changements. Il en fait 5 à chaque match, plus 5 en cours de match. Mais je trouve pas que c'est génial. Je trouve que c'est une obligation de pouvoir faire ça. Et là où ça sera un peu plus compliqué, c'est dans certains matchs où ça sera pas, avec tout le respect qu'on peut avoir pour Le Havre, pour Clermont, ça sera pas Paris Saint-Germain Clermont, ça sera pas Paris Saint-Germain Le Havre, l'équipe du départ, qui jouera contre Lyon la finale de la Coupe de France, celle qui jouera, si tout va bien, la finale de la Champions League, ça sera quand même très intéressant de voir l'équipe qui démarrera et les cinq changements en cours de match. Pour le moment, c'est une gestion qui me paraît tout simplement logique de la part de Luis Enrique.
23h10, vous écoutez l'After et Mehdi est avec nous. Il vient tout juste de sortir du Parc des Princes. Salut Mehdi.
Salut à tous. Salut
Mehdi. Merci d'être avec nous et de nous rejoindre après ce match avec de l'émotion au final. Bon, il n'y a pas le titre de champion au bout, hein, pour toi, supporter du PSG.
Non, malheureusement, pas le titre. J'ai beaucoup crié à la fin, je ne vais pas vous mentir, et tout le monde. Ambiance incroyable à la fin du match.
Ouais.
J'ai fait beaucoup de matchs ici au Parc et ça fait plaisir de voir qu'à la fin, sur les 30, allez, 20, 25 dernières minutes, ça a beaucoup chanté. Donc, franchement, belle ambiance. Et puis déjà, bravo au Havre d'avoir mis 3 buts ici au Parc. Et moi, honnêtement, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai ressenti, avant de parler de quelques cas personnels, mais de ce que j'ai ressenti, c'est que on a l'impression que les joueurs jouaient tranquille. J'ai l'impression que Luis Enrique a dû dire, les gars, le championnat, il est quasi plié. Allez-y tranquillement, vous blessez pas. Mettez pas énormément de pression non plus. Parce que voilà, j'en voyais, moi, des fois, je criais. Je disais, mais jouez plus vite, pouf, ça accélère, etc.
Donc, ouais.
Je pense qu'il jouait tranquillement, honnêtement. Donc, c'est un match un peu piège à décrire.
Ouais, je pense que c'est possible ce que tu dis. Mais ouais, c'est vrai que la chose la plus importante, c'est surtout de ne pas se blesser à 3-4 jours du match aller contre Dortmund. Chose qui n'a pas été le cas dans l'équipe de Dortmund.
Oui, ça on va en reparler. Mehdi.
Oui, non, on a déjà effectivement, on avait peur avec Kimi qui a eu un moment. Où il était plusieurs minutes accroupi, on avait peur. Et sinon, bon, dans l'ensemble, c'était intéressant, mais dommage pour lui, pour Colomani.
Colomani, tu veux parler de Colomani, c'est ça?
C'est sûr qu'une fois de plus, Ramos marque des points. Hein.
Alors c'est sûr, quand on voit la différence quand Ramos est rentré.
Mais il est exceptionnel, Gonzalo Ramos, en ce moment.
Mehdi, vas-y, termine. Oui. Tu veux parler de quoi? De Colomani ou de Ramos?
Oui. Justement, un comparatif rapide entre les deux.
Ouais.
Déjà, de un, j'aurais aimé pour lui qu'il marque Colomani, qu'il nous marque les buts de la victoire du championnat, déjà. Donc, dommage pour lui. Et la différence que j'ai vue, c'est sur au moins la qualité. Parce que Ramos, il n'a pas eu énormément de ballons. Mais la qualité des ballons en une touche de Ramos, ça s'est fait ressentir.
Ouais. Ouais.
Entre Colomani et Ramos, là, on a vu une grosse différence. Donc, même s'il n'a pas touché énormément de ballons, pour moi, celui qui a apporté énormément de ballons.
Et puis, il a la présence d'un numéro 9. Un numéro 9, c'est un finisseur. C'est quelqu'un qui part dans des fausses pistes, semblant d'aller au premier pour aller au deuxième ou vice-versa. Et c'est sûr que le Paris Saint-Germain sans Ramos, je ne fais pas de comparaison entre Ramos et Colomani. Ramos, c'est pour moi un véritable numéro 9. Colomani, c'est un attaquant. Donc, qui peut jouer, qui peut permuter, qui peut être à droite, à gauche, dans l'axe. Mais jouer sans Colomani, ça peut marcher. Quand tu as la chance d'avoir un effectif pour te priver de Ramos, je dis bravo, mais tous les entraîneurs aimeraient avoir cet effectif.
Ramos avec son jeu de tête aussi. Qu'il est bon de
Randal Colomani, c'est clair. Hein, souvent, je parle des joueurs, même si ça a été souvent dans d'autres clubs, des joueurs qui sont dans un club, mais c'est pas pour ça que qu'ils ont le niveau, forcément. Pas forcément le niveau, c'est pas une question de niveau, mais les qualités.
Bah là, on a l'impression que c'est mental avec Colomani. Il a fait quand même des matchs meilleurs que ce qu'il a montré au PSG.
Est-ce que t'as les qualités pour être dans le projet du Paris Saint-Germain avec Luis Enrique sur le banc? C'est ça dont je veux parler. Que ce soit à Nantes, que ce soit en équipe de France, que ce soit notamment et bien sûr à Francfort, ça restait un attaquant de transition,
plutôt la profondeur, ouais.
Un attaquant assez vertical. Mais même ce soir, il y a quand même, il y a un peu de verticalité, il y a un peu de profondeur, même si c'est un bloc qui est assez bas. Mais même ça, on a vraiment l'impression qu'il se sent pas à l'aise aujourd'hui dans le système, alors que a contrario, quand tu vois Gonzalo Ramos qui lui est formé au Benfica, qui lui a joué au Benfica, certes en Liga portugaise, certains considèrent qu'elle est plus faible que la Ligue 1, ça dépend des équipes, mais en tout cas où une équipe de Benfica dominait son championnat, il est habitué à ça, il est habitué à faire avec peu, à faire avec peu d'espace, avec peu de possibilités. Et c'est un buteur, Gonzalo Ramos. C'est pas un mec qui va participer énormément au jeu. Par contre, t'as vu la tête qu'il met. Cette tête croisée, magnifique. Il faut la mettre.
Et c'est vrai que dans les appels...
C'est d'ailleurs le seul joueur du PSG qui a un très bon jeu de tête offensivement.
Mehdi, pour terminer, parce qu'après, Rui va nous rejoindre également. Mehdi, un dernier mot.
Non, mais c'est très bien sur l'équipe. Mais juste attention Ramos, parce que je ne pense pas qu'il ait non plus le niveau phase finale de Ligue des Champions. Parce qu'il nous a quand même raté un face-à-face aussi.
Attention, Ramos, il a quand même fait la Coupe du Monde et il a mis un triplé.
Colomagné aussi.
Je pense qu'il a le niveau phase finale de Ligue des Champions. Bon,
ce qui se passait à Francfort pour Colomagné, c'est intéressant. Ok, de le savoir, c'est peut-être pour ça aussi et pas seulement parce que on fait plaisir à Kylian sur ce coup-là. Donc on récupère un bon attaquant. Mais quand on voit le potentiel offensif et les attaquants qu'il y a dans l'effectif de Paris Saint-Germain, on n'est pas à Francfort, là. Donc, Colomagny, pour le moment, avec ce qu'on voit et aussi ce qu'on ne voit pas de Colomagny, c'est un joker de luxe qui peut rentrer en cours de match et apporter un petit plus. Mais le voir titularisé avec Ramos, Barcola, Dembélé, Mbappé, il s'est trompé de club là pour le moment. Et on verra au mois de juin ce qu'il fait. Il y a encore des matchs où il peut rentrer. Il peut rentrer en cours de match en finale de la Coupe de France et faire gagner le Paris Saint-Germain. Mais sinon, je pense peut-être qu'il faut retrouver un Francfort pour s'amuser à jouer au football. Là, quand je le vois sortir et que je vois sa tête sans sourire ni rien, je me mets un petit peu à sa place. C'est pas amusant pour Colomagny de jouer à Paris Saint-Germain en ce moment.
Alors, merci Mehdi, merci beaucoup d'être passé sur RMC. Et tu reviens quand tu veux, bien sûr, dans l'after.
Un petit bisou, pour ma petite fille qui a 6 mois.
Comment elle s'appelle?
Naya.
Naya, on t'embrasse, ton papa est passé en direct sur RMC. Voilà. Merci beaucoup Mehdi et à très bientôt. Rui nous rejoint dans un instant, supporter du PSG, supporter havrais. N'hésitez pas, 32-16 aussi, pour rejoindre Adrien au standard. On vous attend bien sûr. Je crois qu'on va continuer de parler de Gonzalo Ramos, qui en quelques minutes a fait forte impression. Il y a beaucoup de messages sur Gonzalo Ramos. Alors je vous pose la question, est-ce qu'il doit être titulaire contre Dortmund mercredi? Voilà, réfléchissez, on vient dans un instant.
Comme toi, Lucien Riquet, il faut demander.
Je suis avec le coach de la team Betclic. Coach, un mot sur le match.
Les joueurs ont validé leur pari, le bon plan du soir est passé.
Eh oui, on vous sent touché là.
Ah, c'est les émotions, oui.
Tu as gagné ton pari sur l'app Betclic et tu veux profiter dès maintenant de ta victoire? Grâce au virement instantané Betclic, reçois tes gains sur ton compte bancaire en à peine quelques minutes. Disponible seulement sur Betclic. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addictions. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
François Pinet.
23h18, vous écoutez l'after. Pas de titre encore pour le Paris Saint-Germain. Ça aurait pu être pour ce soir en cas de victoire. Mais le PSG, vous le savez, a fait match nul contre le Havre. 3-0 d'ailleurs. Amis havrais, on vous attend au 32-16 pour revenir sur cette rencontre. On est en train de parler du Paris Saint-Germain. Pas mal de messages d'ailleurs sur l'appli RMC Direct Studio de Vali qui nous dit « Je n'en peux plus d'entendre les fausses polémiques sur la rotation, sur le calendrier. » Quand une équipe se bat toute une saison pour avoir 10 points d'avance, elle s'accorde ce privilège de faire tourner aux autres de faire mieux. Et c'est un Marseillais qui écrit, voilà le message de Vali.
Il a entendu des polémiques ce soir.
Mais nous, on n'a pas fait de polémique. Mais bon,
complètement raison.
C'est vrai qu'il y a eu certains présidents qui ont. Il parle peut-être pas de toi ce soir.
Il y a deux choses. Il y a deux grilles de lecture. Un supporter marseillais parisien, un parisien, quelqu'un peut juger que on a le droit et c'est très bien de faire tourner pour se préparer pour la Ligue des Champions. Un. Par contre, deux, reprocher à un président qui joue le maintien de pas avoir la meilleure équipe du Paris Saint-Germain ou de pas avoir une équipe, disons, entre guillemets, avec une rotation normale. Dans un championnat qui pourrait, en tout cas, on l'a vu ce soir, accorder des points à des concurrents. excusez-moi, ils sont aussi dans leur rôle. Hein. On va pas, on va pas reprocher à un président quand même de pas être d'accord quand ou de râler quand ça se passe.
Alors, je voulais revenir sur Gonzalo Ramos.
Deux choses sont logiques.
Et également, c'est un tueur en pointe, Gonzalo Ramos, nous dit Mehdi. Ça devient quand même gênant de faire jouer Kolo Muani, nous dit Sow. Donc voilà, le débat Kolo Muani Ramos, visiblement, il a été tranché ce soir.
Pour moi, chacun ses goûts, mais il n'y a pas de débat.
Oui. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Rui, justement, est avec nous au 32-16. Salut Rui.
Bonsoir Roland, bonsoir Kevin, bonsoir François.
Salut Louis.
Salut Louis.
Alors, tu es supporter de Porto,
oui,
c'est ça?
Oui, je suis portugais, oui. Et je voulais simplement dire que je suis ravi qu'on voit enfin la qualité de Gonçalo Ramos. Alors, j'ai entendu Roland Courbis dire qu'il n'y a pas comparaison avec Kolo Muani, je suis d'accord. C'est-à-dire que c'est pas du tout les mêmes joueurs.
Mais tu m'as quand même entendu parler de Ramos en tout début de saison.
Ah oui, depuis 7 ans, 8 mois. Vous voyez toujours le maître dans l'équipe.
Ma foi. Donc chacun ses goûts. Après, tu peux jouer sans numéro 9 quand tu as la chance d'avoir des joueurs comme le Paris Saint-Germain a la chance d'avoir. Ben, tu peux te priver d'un numéro 9 puisque je dis, il faut comparer ce qui est comparable. Kolo Muani a d'autres qualités, mais ce n'est pas un numéro 9 finisseur comme Ramos. Et avoir la possibilité d'avoir deux solutions, une solution avec un plan avec Ramos et une autre solution sans Ramos, ben c'est quand même extraordinaire. Alors, je ne sais pas si tu es d'accord, je ne vais pas le répéter 50 fois, mais quelle que soit la composition d'équipe de départ, quand on voit ce qui se passe sur le banc après avoir lu la composition d'équipe, est-ce que l'Olympique de Marseille, l'effectif de l'Olympique de Marseille, mais et dans le même sport et dans la même division, quand je vois ces derniers temps la composition d'équipe de départ de l'Olympique de Marseille et le banc de l'Olympique de Marseille, je bouge la tête de droite à gauche et je dis mais cette équipe là est arrivée en demi-finale de l'Europa League. Mais c'est sincèrement un grand coup de chapeau.
Alors, pour revenir sur Gonzalo Ramos, qui a marqué son 11e but en Ligue 1 quand même, son 14e avec le PSG depuis son arrivée, donc c'est pas rien, avec des belles statistiques pour Gonzalo Ramos, qui est en pleine forme hein, d'ailleurs. Donc la question que je posais, c'est est-ce qu'il doit être titulaire avec le PSG contre Dortmund mercredi?
Bah, titulaire, moi je sais pas. En tout cas, moi ce que je sais, c'est qu'au niveau du Portugal, on n'a pas un avant-centre comme ça depuis Nuno Gomes. Et voilà, c'est un joueur qui manque beaucoup à Benfica cette année. Je pense que vous avez vu Benfica contre Marseille. Je pense que Roland et Kevin seront d'accord avec moi pour dire que s'il y a Gonçalo Ramos à Benfica, Marseille, il la joue pas à la demi-finale de Champions League. Après, je sais pas. J'ai compris que Luis Enrique, c'était pas son joueur clé, qu'il n'aimait pas jouer avec un vrai neuf. Moi, ça m'embête un peu parce que je pense que ce joueur-là a besoin de jouer. Et j'espère que Luis Enrique, l'an prochain, sans Mbappé, c'est vrai que ça va rebattre les cartes, comme disait Roland. On va avoir effectivement plusieurs options avec Kolo Muani. Kolo Muani, il peut jouer. Sauf que Kolo Muani, à mon avis, c'est pas un avant-centre et c'est pas un avant-centre de possession.
Mais vu l'effectif de Paris Saint-Germain, Kolo Muani, c'est un joker de luxe. Oui, quand tu as Dembélé, quand tu as Mbappé, quand tu as Barcola et que tu as Ramos, eh ben tu as en cinquième position Kolo Muani qui peut rentrer en cours de match. Et après, il faudra qu'il réfléchisse si dans sa carrière, il doit rester au Paris Saint-Germain ou pas.
Alors,
mais vous l'avez vu en finale de Coupe du Monde contre l'Argentine. Ouais. Kolo Muani, il était dans son registre, c'est-à-dire que c'est un gars qui rentre en fin de match,
effectivement
capable de faire des différences, ouais.
Donc c'est un joker de luxe.
Mais moi j'espère simplement que Ramos soit sera titulaire l'an prochain à Paris, parce que cette année il y avait Mbappé.
Ouais.
Mais j'espère surtout que soit Luis Enrique lui donne entre guillemets les clés avec Dembélé et Barcola l'an prochain, parce que je pense que tous les trois, avec deux joueurs de côté, avec les capacités qu'ils ont à faire, les capacités de pour faire la différence qu'ils ont, et avec un buteur comme Ramos. Je pense sincèrement qu'il y a de quoi faire à Paris l'an prochain avec ces trois-là.
Alors, on va te remercier, Ori, parce qu'il y a énormément d'appels au 32-16. Mais en tout cas, merci d'être passé pour ce message que tu voulais faire passer sur Gonçalo Ramos. Petit message aussi de Warren Zaïre-Emery. Je vous rappelle aussi que c'est une des informations officialisées ce soir. Sa prolongation jusqu'en 2029, ça a été fait juste avant la rencontre. Et Warren Zaïre-Emery qui parle de la force de caractère qu'ils ont eu de revenir à 3-3. On va tout faire pour gagner les prochains matchs. Et il explique que ça n'a pas été facile. On a du mal à faire bouger le bloc adverse, mais on reste leader et on verra demain si on est champion ou pas en fonction du score de Monaco contre Lyon.
La vraie bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain ce soir, c'est surtout la prolongation, justement, comme tu viens de dire.
Et surtout pas de blessure.
Ça tombe sous le sens.
Farid est au 32-16. Salut Farid.
Bonsoir messieurs.
Merci
bonsoir
d'être en after. Toi, salut, tu voulais Farid. Faire une petite évaluation
salut,
justement.
Coach. Salut Kevin.
Salut à vous.
Des joueurs parisiens.
Ce que tu retiens, c'est effectivement c'est un match avant la Champions League, donc moyen avec une équipe qui joue un bloc bas, donc une belle équipe de Hand du Havre. Derrière, on n'a pas été bon à Danilo, qui ne veut pas taper dessus parce que c'est quand même un bon soldat et qui est moins bien, qui a été moins bien aujourd'hui. Mais bon, comme Navas aussi, bon, vous allez me dire qu'il joue jamais, donc c'est normal qu'il soit moyen, on va dire. Ce que je retiens surtout, c'est que on veut pas perdre et ça, c'est ce que j'aime dans notre équipe, c'est qu'on veut surtout pas perdre. Et pour revenir à ce que tu disais, coach, quand tu disais qu'on avait Colomoni comme joker, si en début de saison, il était encore moins joker, c'était Barcola qui était derrière lui et c'est lui qui a inversé un petit peu les rôles, hein, pour revenir à ça. Maintenant, on a fait un match moyen avec
Peu les joueurs là, une évaluation
des individualités à noter. Je sortirai un petit peu du lot. Alors tu vas me dire il défend pas super top là-dessus aujourd'hui, mais j'ai bien aimé l'état d'esprit d'Hakimi. Je trouvais qu'il avait plus qu'envie de gagner et puis il a apporté beaucoup. Après, on a une charnière qui a été un peu lente. Et puis j'ai trouvé Zeremi.
Hakimi, tu l'as trouvé bon?
Écoute, moi forcément, j'ai trouvé très bon. Hein.
Dans l'état d'esprit, il a dit. Hein.
Ah, dans l'état d'esprit.
Ouais. Dans l'état d'esprit.
Et puis offensivement,
offensivement, dans l'état d'esprit. J'ai pas dit qu'il avait super bien défendu. Hein. Mais par contre, il a apporté peut-être trop par rapport à ce qu'il doit faire dans son poste. Maintenant, derrière, on a eu pas mal de lacunes dans l'axe. Hein, puis, on n'a pas eu non plus un gardien décisif. Donc, quand je vois qu'on tape où les gens arrivent à taper régulièrement sur un Donnarumma, ça confirme.
Donnarumma, sur les 3-4 derniers mois, ça a été souvent le meilleur joueur avec Mbappé du Paris Saint-Germain.
On est d'accord.
Non, mais après, Donnarumma, c'est pas qu'une question de gardien de but, c'est une question de projet de jeu quand tu le mets en perspective avec ce que propose et ce que demande Luis Enrique à un gardien. Aujourd'hui, Donnarumma, c'est pas le gardien qu'il faut. Je parle pas cette saison, hein, je parle sur le moyen terme avec un entraîneur comme Luis Enrique. Hein. Guardiola a changé de gardien quand il est arrivé à City. Arteta a changé de gardien à Arsenal après quelques mois et puis il a rechangé encore une fois. Donc c'est clair que les qualités de Donnarumma sur sa ligne, elles sont pas à remettre en question. Maintenant, est-ce que c'est le gardien idoine pour le projet de jeu de Luis Enrique? On n'en est pas sûr, c'est tout.
Après faut-il. Mais écoute, moi je te dirais, vas-y, dis-moi qui tu mettrais. Demain, si tu me dis que Donnarumma est pas au moins dans le top 8.
La question c'est pas qu'il soit un bon gardien. Donnarumma c'est un excellent gardien. La question quand certaines personnes remettent en question Donnarumma au Paris Saint-Germain, c'est sur le package global qu'on demande à un gardien aujourd'hui dans une équipe entraînée par un entraîneur du style de Luis Enrique. Ce que je dis c'est quand même clair.
Kevin, moi je rebondis un peu sur ce que disait coach. Hein, quand tu vois ce qu'il fait sur les 2-3 derniers mois. Par rapport à être décisif, moi, ce que je recherche dans un gardien, c'est pas qu'il ait la meilleure transversale au monde.
Mais toi, t'es pas Luis Enrique.
Je te donne mon avis. Effectivement, je suis pas Luis Enrique.
Non, mais tu dis, moi, ce que je recherche chez un gardien.
Moi, en tant que supporter ou en tant amateur de football, ce que je recherche, c'est un gardien décisif. Quand surtout tu joues au PSG, tu vas pas te retrouver avec 6-7 occasions. Il te faut un gardien décisif sur très peu de ballons. Et c'est ce qu'il a quand même réussi à faire. Maintenant, après, il y en a pas tant que ça des gardiens. Moi, je trouve de son niveau au niveau européen qui puisse être aussi décisif. Mmh. C'est surtout là dans les prochains matchs, on verra comment ça va se terminer et on verra qu'est-ce qu'il fait dans ces gros matchs. Et c'est là où tu peux juger si c'est le grand gardien. Mais non. Je sais pas, non, tu me rejoins pas, Kevin.
Non, mais je ne remets pas en question les qualités de gardien ou de haut gardien de haut niveau ou de grand gardien de Luis Enrique, de Donnarumma. Mais par contre, un entraîneur comme Luis Enrique, ça a besoin peut-être d'un gardien qui a d'autres qualités,
notamment au pied,
pour mettre en perspective.
Pour te donner
au pied. Vas-y, coach.
Pour te donner mon avis sur le poste de gardien. Que je regarde très attentivement depuis l'âge de 8 ans, puisque c'est mon père qui m'a mis ça dans la tête. Moi, sans rentrer dans les détails, les qualités, les défauts, le jeu au pied, le machin, etc. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est un gardien difficile à battre. Et sur les 3-4 derniers mois, Donnarumma a fait partie pour moi des gardiens difficiles à battre et souvent l'un des deux meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain. Alors après, évidemment, il y a 2-3 relances qui sont des relances moyennes par rapport à ce que veut son coach. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il soit difficile à battre.
Merci beaucoup, en tout cas, Farid, d'être passé. On te remercie et tu reviens quand tu veux dans l'after, bien sûr.
Bon, messieurs, bonne soirée. Puis merci, coach, de m'avoir fait gagner. Désolé, Kevin.
Salut. Cédric nous rejoint dans un instant pour parler notamment du Havre. Les Havrais qui ont pris un point peut-être précieux pour la fin de saison. On va faire les comptes, bien sûr. On vient dans un instant dans l'after. Restez avec nous, à tout de suite.
Je suis avec le coach de la Team Betclic. Coach, un mot sur le match.
Les joueurs ont validé leur pari. Le bon plan du soir est passé.
Eh oui, on vous sent touché là.
Ah, c'est les émotions, oui.
Tu as gagné ton pari sur l'app Betclic et tu veux profiter dès maintenant de ta victoire? Grâce au virement instantané Betclic, reçois tes gains sur ton compte bancaire en à peine quelques minutes. Disponible seulement sur Betclic. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
François Pinet.
23h33, vous écoutez RMC, on est avec Kevin Diaz, avec Coach Courbis, on est en direct jusqu'à minuit, vous le savez, à retrouver aussi en podcast l'after, où on revient largement, bien sûr, sur le match de la soirée entre le Paris Saint-Germain et le Havre.
Et je tiens à dire dans cet after que le c'était pas dans l'after, oui, était exceptionnel.
D'accord, parfaitement alors choisi par... Évidemment, petit teasing, on dit rien, c'est à retrouver, faut cliquer dessus. Voilà, ouais, vous allez voir, cliquer. C'était pas dans l'after. Comme son nom l'indique, c'est pas dans l'after ce soir, mais c'est à retrouver en podcast sur toutes les plateformes. Et Kevin est content. Cédric est avec nous parce qu'on va parler un petit peu des Havrais, messieurs, avant de parler de Dortmund avec Paulo Breitner. Salut Cédric.
Salut, comment allez-vous, messieurs?
Ça va bien, salut, merci d'avoir salut, fait le 32-16. Qu'est-ce que tu retiens? C'est intéressant de t'entendre parce qu'on se met à ta place. À quelques minutes de la fin, il y avait 3 points et finalement, c'est un seul. Mais tu aurais peut-être signé pour un seul point avant le match.
Oui, bah oui, forcément. Je pense que on aurait tous signé pour ça. Bon, après la victoire nous paraissait un peu irréelle, mais bon, c'est dommage d'avoir perdu 2 points à 2 minutes de la fin. Mais bon, 1 point avec l'état d'esprit qu'il y a eu ce soir. Enfin, je trouve que c'était pas mal.
Oui, parce que ça a été assez critiqué les dernières sorties havraises par l'état d'esprit, par exemple contre Metz. Hein, on se souvient de ce match.
Oui, d'ailleurs, c'était pour faire une petite dédicace. Je t'avais fait l'interview la semaine dernière.
Ah, c'est toi, Cédric.
Oui,
d'accord.
C'est moi,
ok, c'est toi qui a un site donc pour les supporters à vrai. Tu peux le citer,
oui,
d'ailleurs,
voilà,
à l'antenne.
Le site. Bah, exactement. Donc c'est le site.
Tu cites le site. Puis,
voilà. Petite pub. Acmen, c'est ça.
Voilà, c'est le site Acmen.
Très sympa, Cédric.
Et puis voilà. On va prendre.
Très bonne. T'as interviewé François. François le grand Pinet.
Mais qu'est-ce que c'est que cette interview? Pourquoi ils interviewent François Pinet?
Mais pourquoi t'as interviewé François Pinet?
Parce que c'était le Havre-Metz.
Ah oui,
le
Havre-Metz.
Je suis un des spécialistes du
football. Oui, c'était l'interview interadversaire. Et donc toutes les semaines, on interviewe une personne en rapport.
Ça vous a pas porté chance, malheureusement.
Non. Je crois qu'il
ah ouais,
plus.
Non, la semaine dernière, malheureusement.
En plus, j'avais dit 1-0, but de Mikotadze comme.
Oui, voilà, bien joué.
Comme pronostic, je me permets.
Non, c'est vrai que je t'avais pas félicité de le jour, mais désolé, on passe devant vous au collaborage quand même.
Oui, alors justement, on va parler quand même de ce classement pour les Havrais, messieurs, et ça va être intéressant. Le Havre a un point, le même nombre de points que Metz, mais avec la meilleure différence de but. Moins 11 pour les Havrais, moins 18 pour Metz. Metz qui joue demain contre Lille. Les Havrais qui donc ne sont plus barragistes actuellement. Et ensuite, Lorient est quand même à 3 points des Havrais, des Lorientais qui affrontent Toulouse demain. Donc, est-ce que ce petit point peut faire la différence?
Alors, bien sûr que...
Oui.
Kevin va répondre, après je te laisse la parole, Zéry.
Non, mais bien sûr que ce point, il est énorme pour les Havrais. C'était inespéré. D'ailleurs, j'ai perdu mon Survivor sur ce coup-là. Mais c'est pas grave. Je suis content pour le Havre, Mathieu Bonnemer et toute son équipe. Mais c'est vrai que, alors, ils vont être déçus. Parce que comme disait coach, t'avais 2 buts d'avance. Tu sais que ça allait être compliqué. Et encore à 2 minutes et demie de la fin, t'as encore 3 points. Ce qui aurait été inespéré.
Et attends, mais... Dernière minute, tu peux prendre un 4e.
Ouais, donc au final, ils vont, je pense, dès demain ou dès ce soir, se contenter quand même de ce bon match, de ces 3 buts marqués et de ce point du match nul au Parc des Princes, parce que c'était quand même un match important pour le PSG. Ils pouvaient fêter leur titre officiellement dès ce soir. Donc,
ils vont être supporters de Lille.
et ils vont être demain supporters de Lille, mais je pense que Le Havre va quand même pouvoir construire, je pense, sur ces derniers matchs, parce que ce soir c'était quand même une belle équipe.
Alors on va écouter Warren Azaré.
Les trois derniers matchs, tu peux nous
les
donner.
Oui, je vais vous les donner dans un instant. On écoute juste Warren Zaïre Emery en direct.
Déjà on fait tout pour pas prendre de but. Maintenant, c'est vrai, on en a pris trois. C'était pas l'objectif. On vient pour gagner tous les matchs. On prend match par match, on se concentre semaine après semaine. Et maintenant que le match du Havre est fini, on va se concentrer sur celui de Dortmund et bien préparer ce match pour aller gagner.
On savait que c'était il a dit effectivement l'importance, elle est. Ah non, il n'a pas pu le dire. Une nouvelle question sans doute vis-à-vis de Dortmund.
Ah non, c'est l'aventure au Paris Saint-Germain.
Il a prolongé jusqu'en 2029.
Je suis là depuis 2014. Je suis passé par toutes les étapes et je tenais à remercier le président, le coach pour la confiance qu'il me donne et le club et toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre qu'on voit pas mais qui contribuent à la réussite de chaque joueur et les supporters qui sont toujours là et j'espère les rendre fiers comme je le fais depuis le début de saison.
Warren Zaïre Emery, voilà, prolongé jusqu'en 2029, ça on en a parlé et qui était en direct dans l'after.
C'est bien parce que c'est rare de voir les jeunes joueurs parler des hommes de l'ombre. Alors, je ne sais pas s'ils parlent des magasiniers, des intendants, des kinés. Et c'est très important, c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup parce qu'il a la tête sur les épaules et trouve souvent les bons mots.
Et il va être mis en avant, sa jeunesse, évidemment, par le Paris Saint-Germain, au niveau de la communication aussi, après le départ de Kylian Mbappé.
Et il prépare le bac.
Oui, il prépare le bac.
Oh, c'est incroyable.
On va voir s'il l'a. C'est pas.
Ah ben, je mise.
Maintenant, tout le monde l'a, le bac.
Je suis sûr qu'il va l'avoir.
Là-dessus, quand
tout le monde l'a, le bac.
Non, tout le monde.
Je suis sûr qu'il va l'avoir.
Il va l'avoir, je pense aussi. Il a l'air d'avoir la tête sur les épaules, en tout cas. Tu voulais le calendrier à vrai, coach. On y revient avec Cédric, qui est supporter du Havre, qui est avec nous. Réception de Strasbourg.
Réception de Strasbourg.
Déplacement à Nice.
Déplacement à Nice.
Réception de Marseille pour la dernière journée.
Et si par exemple on te pose la question, combien tu penses que le Havre va prendre de points avec le Havre avec ses qualités?
On pose la question à Kevin.
Non, on va poser la question à notre auditeur.
Moi, je pense que Strasbourg, ils vont pas faire de cadeau à Metz. Hein, on connaît la rivalité, donc ils sont déjà sauvés ou quasiment. Donc
ils vont pas laisser gagner le HAC parce que c'est les rivaux de Metz. Non, j'y crois pas du tout.
Mm-hmm. Bon après, de toute façon, pour nous, le mieux c'est de faire deux victoires dessus. Hein. Enfin, une victoire et un nul, je pense que ça peut suffire. Mais bon, après la place de barragiste et tout. Enfin bref.
Ouais.
Je pense que Strasbourg et Marseille après. Nice, ça fait pas loin de 30 ans qu'on n'a pas perdu contre eux.
Non, franchement, il y a y a moyen de faire quelque chose. En comparaison, je vous donne le calendrier de Metz. C'est Lille, donc demain. Ensuite, il y a la réception de Rennes, déplacement à Strasbourg, et ensuite la réception du Paris Saint-Germain pour la dernière journée. Quel PSG, ça, on ne sait pas non plus.
Oui. Voilà. Ouais, non, mais c'est sûr que c'est pas facile non plus. Mais là, il y a des gros matchs pour les équipes qui jouent le maintien.
Voilà. Il y a des équipes, sur les cinq dernières équipes, je pense qu'il y en a peut-être une ou deux qui te signeraient d'être barragiste.
Ça, c'est sûr. Oui, maintenant, nous, barragistes, on signe. Hein.
Tu prends, Cédric. En tout cas, Cédric, merci beaucoup. Et tu sais qu'il faut interroger pour le prochain match la réception de Strasbourg.
Ah bah oui, bien justement. Et j'arrive pas à le contacter.
Ah, il veut pas. Bon, écoute, il écoute sans doute cette émission.
Il y a moyen de le contacter.
N'hésite pas, il écoute sans doute. Voilà, c'est Cédric, tu lui dis, t'es passé dans l'after ce samedi et peut-être qu'il te répondra. Ouais, merci beaucoup, Cédric.
Ah oui, j'ai une exclusivité aussi.
Ah bon?
Apparemment, Mathieu Bodmer a reçu un appel pour un transfert, enfin un échange entre André Ayew et Kolo Muani, mais c'était refusé.
Oui, je comprends. Merci Cédric, en tout cas. Merci d'être passé.
Salut Cédric.
Et tu reviens quand tu veux. Akmen, donc ton site pour tous les supporters à vrai, à retrouver sur Internet. On revient dans un instant parce qu'on n'a pas encore parlé du Borussia Dortmund qui jouait aujourd'hui. Futur adversaire, vous le savez, du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Les joueurs du Borussia ont pris une claque 4-1 face à Leipzig. Donc a priori, il ne faut pas s'inquiéter, supporters parisiens, restez à l'écoute. Paulo Breitner nous rejoint dans un instant et j'aimerais qu'on dise un mot de cette équipe incroyable du Bayer Leverkusen, toujours invaincue cette saison. Restez avec nous, à tout de suite.
RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
François Pinet.
On est de retour dans l'after en direct sur RMC 23h42. C'est jusqu'à minuit. C'est à retrouver également en podcast dès ce soir avec Coach Courbis et Kevin Diaz. Dans un instant, on accueillera Johan Crochet pour revenir sur le duel Juve-Milan. Bon, il y a eu 0-0, tiens, comme par hasard en Serie A. C'est surtout un duel où peut-être le dernier match entre Pioli et Allegri, les deux coachs qui devraient être remplacés la saison prochaine. Et Johan Crochet viendra nous parler de tout ça. Mais d'abord, Polo Breitner est avec nous. Salut Polo.
Bonsoir mon cher François, bonsoir tout le monde.
Salut Polo.
Évidemment, on est à trois jours du match Dortmund-PSG en demi-finale de Ligue des Champions. On surveillait donc de près le match de Dortmund aujourd'hui contre Leipzig. Ça se passait à Leipzig, victoire 4-1 de Leipzig qui a pris donc 5 points d'avance sur Dortmund au classement. Leipzig 4e, Dortmund 5e. En gros Polo, c'est pas vraiment une équipe en confiance que le PSG va affronter mercredi sur ce qu'on a vu sur la pelouse aujourd'hui.
Ils se sont un peu fait maltraiter par le club saxon, ça c'est une évidence. Dès le début de la rencontre, Leipzig prenait le ballon, il y avait des fautes avec des pertes de balles justement du côté du Borussia Dortmund, mais le Borussia Dortmund nous a sorti sa spéciale, c'est-à-dire que c'est une équipe qui est capable de marquer n'importe quand, et ils se sont retrouvés avec un but superbe de Sancho à mener au score contre le cours du jeu. Dès le début, ils avaient même eu un petit peu avant des occasions franches pour ouvrir le score, mais si tu veux... on n'a jamais vu un Borussia Dortmund au niveau de la rencontre qui était, tu l'as dit, très importante, puisqu'on cherchait évidemment à revenir sur Leipzig. Le vainqueur, évidemment, Leipzig prend maintenant 5 points d'avance sur Borussia Dortmund pour la prochaine qualification Ligue des Champions. Mais si Dortmund l'emportait, il passait devant et restait quatrième. Et revenait, pardon, à prendre la quatrième place. Ce qui est assez décevant cet après-midi, c'est que la prestation a été mauvaise. On peut évidemment dire que le club saxon était largement supérieur. C'est de toute façon, sur les dernières semaines, un peu l'équipe en forme de la Bundesliga, puisqu'il met 3 à 4 buts à tout le monde en ce moment. Mais si tu veux, et même si on peut trouver des excuses en disant qu'il y avait un tiers, enfin en tout cas plus d'un quart de l'équipe qui n'était pas là, on a vu Mats Hummel sortir à la 50e minute, etc. La prestation globale n'est pas satisfaisante dans l'objectif, évidemment, du match de mercredi.
Et la blessure, elle est grave ?
Non, apparemment ça va, mais le problème de Mats Hummels, c'est qu'il c'est l'un des meilleurs défenseurs de Bundesliga en ce moment, sauf qu'il a 35 ans, il est très très lent, quoi. Et il est peut-être dans une période qui est pas la meilleure, et le problème du Borussia Dortmund, et notamment défensivement, c'est lorsque Mats Hummels va bien, le Borussia va très bien aussi, et dès que Mats Hummels va un petit peu moins bien, et ben la défense du Borussia prend l'eau. Schlotterbeck n'arrive pas à se défaire, on va dire, de l'emprise, comme souvent dans les défenseurs centraux, il y en a un qui domine l'autre, et ben là, Schlotterbeck est encore jeune et n'arrive pas en fait à supplanter le fait d'un Mats Hummels qui a fait une prestation très très moyenne.
Alors on parle d'une déchirure douloureuse au tibia, je sais pas, ça c'est ce que dit Terzic. Ça vient d'être réglé, donc ça devrait pas poser de problème. Voilà, c'est la déclaration du coach.
Ouais. C'est ça. Ouais. Terzic a fait une déclaration.
Voilà. Il a juste déchiré son protège tibia, c'est ça?
Dis-moi, c'est un peu plus grave que ça.
Non, mais c'était un peu délicat cette performance, parce que globalement il y a des joueurs qui sont pas au niveau, qui commencent à énerver tout le monde. On peut penser à Adeyemi, qui est plus un coureur de 100 mètres qu'un joueur de football. Donc ça Füllkrug, il est là de temps en temps. Puis en plus, tu sais, Adeyemi, si je reviens sur Adeyemi, qui est un joueur qui est arrivé évidemment de Salzbourg, qui a été international allemand. Je dis a été parce qu'il peut toujours être appelé, mais pour l'instant il ne l'est plus. Il fait une saison extrêmement moyenne, et puis c'est surtout un peu le Leroy Sané du pauvre, c'est-à-dire que dès qu'il va pas bien, ou il a toujours la tête baissée, etc. Sauf qu'il a pas le talent de Leroy Sané, qui a un autre palmarès, etc. Et ça fait partie encore une fois de ces joueurs qui sont arrivés très jeunes en Bundesliga, dont on nous annonce Mons et Merveilles parce qu'il flambe avec Salzbourg, qui domine globalement le championnat autrichien. Mais dès qu'on passe dans un championnat de classe internationale comme la Bundesliga, ben c'est pas du tout la même chose, et c'est pas normal, quoi, d'avoir ce genre de comportement. Alors oui, il manquait du monde, parce que Chan et Madsen étaient suspendus. Oui, il y avait des blessés, puisque Malen n'est pas là, il n'était même pas sur le banc. Zabitzer était sur le banc aussi, parce qu'il avait une infection cette semaine. Donc on devrait les récupérer, évidemment, contre Paris. Mais globalement, la prestation de ce soir, le message du Borussia, en tout cas, si on écoute Sébastien Kehl, le directeur sportif, c'est on oublie cette performance, et maintenant, parce qu'il faut penser positif, c'est des trucs à la mode, ouais. pour le match de mercredi. Mais globalement, ils n'étaient pas là ce soir, enfin, cet après-midi, dans une rencontre très très importante pour l'année prochaine, en tout cas.
Il vaut mieux pour le PSG affronter Dortmund que Leipzig, quoi, si je comprends bien.
Ah bah sur la forme du moment, c'est très clair qu'il faut éviter le club saxon. Quoi.
Ouais. Sans rentrer dans les détails, évidemment, on t'écoute toujours avec beaucoup d'attention. Moi, voir Borussia Dortmund en demi-finale de la Champions League après s'être séparé de Bellingham, sincèrement, je trouve ça extraordinaire.
Bah, c'est extraordinaire, non pas sur les résultats qu'ils ont fait cette saison, parce que finalement, sur 10 rencontres, ils en ont remporté 5, 3 matchs nuls et 2 défaites, et les 2, c'est le pari lors du match de poule et le match moisi d'ailleurs du Borussia Dortmund à l'aller au Parc, ils perdent 2-0, et puis la défaite 2-1 contre l'Atleti. Mais quand tu vois les adversaires qu'ils ont rencontrés, excepté le PSV Eindhoven, ils ont quand même fait des sacrées performances hein, cette saison. Et le problème du Borussia Dortmund l'année dernière, c'est qu'on dépendait souvent un peu de la forme d'un Bellingham, et je le dis souvent, Bellingham a été élu l'année dernière joueur de l'année en Bundesliga. Je pense que c'est l'une des plus grandes escroqueries qu'on a vu sur ces dernières saisons. D'ailleurs, même les supporters du Borussia Dortmund ont élu Gregor Kobel,
ah ouais,
le
escroquerie
gardien.
Escroquerie carrément.
Mais ouais, mais bien sûr. Mais sinon, ils auraient remporté le titre largement. Et les supporters du Borussia Dortmund ont bien entendu raison en élisant l'année dernière le Gregor Kobel, le gardien, parce que c'est lui qui tenait la baraque pendant toute la saison. C'était vous rappelez-vous, ils ont perdu le championnat à la dernière journée à la 89e minute. Mais quand on voit la chance,
est-ce que ce serait une anomalie statistique du coup, Bellingham? Bah, qu'il soit meilleur joueur.
Non, mais ça, ok, tes blagues, c'est sympa, mais il faut regarder les rencontres aussi, il faut analyser le truc. Et Bellingham a été l'année dernière extrêmement, il a eu des périodes extraordinaires, mais quand il y a les matchs importants, là où tu vas chercher les points, sinon ils auraient gagné le championnat.
Bon, depuis avec le Real, quand même, il a fait gagner.
En même temps, ils étaient à 10 secondes de le gagner, le championnat, c'était pas non plus.
Juste pour revenir sur Dortmund d'un mot, bon, on a vu qu'il y avait du talent quand même dans cette équipe, donc il faudra se méfier. Sancho, c'est pareil, c'est des éclipses, quoi. Là, on a vu son but, il est magnifique.
Pour le coup, la Sancho, je reprendrai pas Polo, non. Je contredirai pas
mais
Polo.
Mais il est magnifique, ça, son sûr. But, mais voilà, mais Brandt, c'est un joueur de talent aussi. Il y a du talent dans cette équipe de Dortmund, donc.
Moi, je pense qu'il y a un secteur qui est très important. On le sait très bien, on connaît un peu le football. C'est le secteur défensif. Que ce soit au milieu, que ce soit devant, cette équipe de Dortmund, je la trouve très bonne. Sur le plan défensif, pour répondre, Dembélé, Mbappé, Barcola, Ramos, là sincèrement, je pense qu'ils sont en retrait.
Tu penses que ça sera compliqué, effectivement. En plus, contrairement au Paris Saint-Germain qui est à des points d'avance, Dortmund joue sa place en Ligue des Champions la saison prochaine. Ils ont affronté Leverkusen et Leipzig.
Autant je disais qu'ils n'étaient pas favoris forcément contre le Barça, et on l'a vu d'ailleurs que, en tout cas, à 11 contre 11 sur les deux matchs, c'était plutôt assez équilibré. Mmh. Mais là, par contre, contre Dortmund, ils sont, je ne vais pas dire ultra, mais ils sont vraiment favoris.
Mais surtout avec le deuxième match au Parc des Princes.
Avec le deuxième match au Parc.
Et Polo, comme tu es là, nous, alors honnêtement, on va dire des choses hein, pour ceux qui nous écoutent, mais on était avec coach pour suivre ce match. Ça y est, on s'est passionné pour l'aventure du Bayer Leverkusen qui affrontait Stuttgart. C'était un choc de Bundesliga et ils ont encore fait le coup. Toujours invaincu, 46 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, avec un but à la 97e minute alors qu'ils étaient menés 2-0.
Ouais, enfin, je comprends que ça plaise.
Non mais c'est gens, fou mais ce qui se passe. Il y a eu des arrêts de gardiens. Radeki fait des arrêts de fou. Stuttgart se rate aussi. Enfin,
tu sais qu'ils vont perdre le premier match contre Marseille en finale de l'Europa League.
Les premiers, les Marseillais, qui vont faire tomber Bayer Leverkusen.
Ça, le slogan est trouvé. Enfin, c'est toujours le pareil, le verre à moitié plein ou à moitié vide. Moi, ce que je constate, c'est que depuis le titre et même un petit peu avant, il y a des alertes au Bayern Leverkusen, comme quoi c'est un petit peu moins bien dans le jeu.
C'est normal.
En fait, la rencontre. Ouais, mais sauf qu'à la rigueur, je préférais qu'ils s'en prennent une grosse, tu vois, histoire de dire qu'on arrête de parler de cette série de 46 matchs.
Oui, mais c'est ça qui les pousse à justement refuser la défaite. Tu le sens quand même dans le match.
Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Ils sont beaucoup trop joueurs en ce moment. Ils sont pas assez concentrés. Stuttgart mène 2-0. Guirassy a l'occasion de mettre le troisième.
Oui, clairement.
Et on n'en parle plus. Le problème, c'est que oui, le scénario fait que ça fait plaisir à tout le monde. Les médias s'en emparent, etc. Y compris en Allemagne. Mais si tu veux, moi, ce qui m'intéresse, c'est que depuis quelques journées, mais y compris en Europa League, la première mi-temps contre West Ham a été la pire mi-temps de cette saison sous Xabi Alonso. Et tu sens que les joueurs sont plus, ont plus forcément la tête à 100% aux objectifs qui restent quand même une finale de Coupe d'Allemagne où ils seront évidemment largement favoris parce qu'ils vont jouer Kaiserslautern, une équipe de deuxième division. Ouais. Et puis, il y a jeudi un match super important qui est
les deux matchs contre la Roma. Contre la Roma, ouais. Je vais les regarder avec beaucoup d'attention.
Ouais. Ouais. Mais je suis enfin, c'est pas que je suis déçu. Parce que si tu veux, moi, j'ai pensé que c'est une forme de comique de répétition, quoi. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la prestation globale de l'équipe. Et elle est en train de baisser. Elle a un niveau et qui fait que ça lui permet, il permet de revenir à chaque fois. Donc, c'est bien pour les statistiques. Ça plaît à tout le monde. C'est marrant, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que je vois quand même une équipe qui est de plus en plus démobilisée. Ouais. Et il y a quand même encore des objectifs à aller chercher.
Voilà. Ça, c'est l'exigence. Polo Breitner, hein. Voilà.
Je pense que Roland aurait la même
mais
analyse.
Oui, mais oui. Merci en tout cas, Polo. Merci. Et on va suivre le Bayer Leverkusen pour savoir si quand même cette aventure formidable, cette histoire incroyable d'un club qui pourrait être invaincu, toute compétition confondue sur une saison.
Je suis pas d'accord. C'est rare, hein, mais je suis pas d'accord avec Polo sur Bellingham, même si certes il a dû voir beaucoup plus de matchs que moi. Mais par contre, sur le Bayer Leverkusen, je suis pas d'accord non plus. Même si, attends, les mecs sont champions, ils ont fait un truc historique, c'est normal qu'il y ait une décompression. Il y a un moment, c'est des êtres humains, les gars. Sinon, c'est les invincibles d'Arsenal et c'est des légendes du foot. Alors que là, je suis pas sûr qu'il y ait énormément de légendes du foot dans cette équipe. Mais en tout cas, ce qu'ils font, semaine après semaine, de vouloir ne jamais mais perdre, ben je peux te dire que c'est à noter et c'est
extraordinaire. Et on n'a jamais parlé autant du Bayer Leverkusen en France d'ailleurs et dans tous les pays européens. 23h53, c'est le moment d'accueillir Johan Crochet. Salut Johan.
Bonsoir messieurs.
Alors bon, c'était moins emballant le match entre la Juve et le Milan, mais tu es là quand même pour nous en parler. 0-0.
C'était une purge, on peut le dire.
Entre les deux équipes, ben voilà, je voulais être sympa, mais bon, au moins t'as donné les mots et tu as raison. Match de Serie A. Bon, on sait que les deux équipes a priori seront en Ligue des Champions la saison prochaine.
Oui.
Mais ce qui est intéressant aussi, tu peux revenir sur le match bien sûr, hein, mais c'était la dernière sans doute entre Pioli et Allegri, deux coachs qui sont, semble-t-il, sur le départ.
Ouais, exactement. Et on peut pas dire que pour un de leurs derniers matchs à la tête de leur équipe ou pour leur dernier affrontement entre ces deux entraîneurs, ils ont laissé un souvenir impérissable de ce match-là. D'ailleurs, la Juve est nettement mieux dans ce match que le Milan, qui depuis l'élimination en quart de finale de l'Europa League contre la Roma, on a l'impression que la saison est désormais terminée et qu'ils vont avoir beaucoup de mal à la terminer dignement parce ce qu'on a vu lors du derby et ce qu'on voit ce soir contre la Juve, c'est pas digne du niveau du Milan, vraiment pas, et je parle même pas du Milan des plus grandes heures, hein, digne de ce qu'est le Milan et de ce que doit être le Milan dans l'exigence et dans l'obtention de résultats. Petite stat en passant, 0 tir cadré.
Ah oui.
Il y a eu que 2 matchs sur les 3 dernières saisons où le Milan n'a pas cadré un seul tir dans la rencontre. C'était l'année dernière le derby perdu, un des derbys perdus par Pioli, et puis ce match-là. Donc c'est vraiment pas bon, c'est dans le jeu, il se passe plus grand chose. On a des joueurs qui ne font plus grand chose. Dans l'état d'esprit, il n'y a plus grand chose non plus. Techniquement, il n'y a pas grand chose de réussi non plus.
Gros match du gardien, quand même.
Forcément, il y a
comment Sportiello, le gardien milanais qui remplaçait Maignan.
Gros match du
gardien. Ouais, Sportiello a fait plusieurs très bons arrêts face à Milik, face à Danilo, face à Kostic. La Juve, qui est quand même pas une équipe qui, sur le plan du jeu, nous régale depuis de longues années maintenant. Néanmoins, sur ce match-là, c'est elle qui a fait plutôt le jeu, qui a voulu se créer des occasions, qui a tout fait pour aller marquer un but. Et ils auraient dû réussir s'il n'y avait pas eu un très bon Marco Sportiello qui a remplacé au pied levé Mike Maignan pour une petite douleur à l'adducteur ressentie lors de l'échauffement.
Mais il y a souvent quelque chose de Mike Maignan.
Ouais, mais on en parlait avec Nicolas Ledru, notre producteur, en vous écoutant parler de Dortmund. Et effectivement, il fait rarement des saisons complètes. Parfois, c'est plus ou moins grave. Il s'est plusieurs fois blessé en équipe de France. Mais c'est vrai que il a souvent un petit quelque chose. Là encore cette saison, des petites absences, je vais y arriver. Petite blessure au Slavia Prague aussi en Europa League. Là encore ce soir, bon, c'est musculairement, ça commence à faire beaucoup de petits pépins, ouais.
Et puisque ce match, on tourne la page, hein, 0-0, on va pas y revenir trop longtemps. Un souffle nouveau du coup. À venir, parce qu'on l'a dit, les deux coachs normalement devraient être remplacés. Donc il y a des noms qui sortent.
Ce qui semble certain à 100%, c'est Pioli à Milan, qui va être remplacé. Ouais. Allegri, moi je mets toujours le mai. Hein, ça fait 3 ans que je mets un mai pour Allegri. Le mai, c'est son salaire. Parce que même s'il ne lui reste qu'un an de contrat, si la Juve veut s'en séparer, lui réclamera l'entièreté de son indemnité de départ, c'est-à-dire sa dernière année de contrat. Mmh. Et sa dernière année de contrat, son salaire brut plus le salaire de ses collaborateurs proches directs qui feront donc leur valise si Massimiliano Allegri doit être écarté de la Juve, c'est 20 millions d'euros pour un an de contrat.
Mais Johan, toi tu nous en parles, on sait ce que tu en penses, mais il y a quoi ? Il y a une machine médiatique derrière qui le critique quand même, qui le remet en question, ou même plus tant que ça parce que les gens sont résignés ?
Non, très peu déjà, parce que ce monsieur a beaucoup d'amis dans la sphère journalistique, donc on évite de lui poser des questions trop compliquées en conférence de presse d'après match.
La Juve est quand même décrochée, clairement quand même.
Les questions et les réponses des entraîneurs sur ces dernières années, j'ai quand même été surpris, si on peut appeler ça, mais pire que surpris, quand on lui a posé la question sur son métier et qu'il a dit qu'il aimait pas entraîner.
Qu'en fait, il s'ennuyait lors des entraînements de la semaine et que lui, il ne vivait que pour les matchs le week-end.
En sachant le salaire qu'il a et que tous ces ce staff a, sincèrement, j'ai dit, mais attends, c'est une blague ou c'est sérieux?
Et il est très sérieux. D'ailleurs, il ne fait pas toutes les séances d'entraînement. Son adjoint Landucci travaille beaucoup, lui, pour le coup.
De pas les faire et de dire qu'il s'emmerde. Donc, ouais. à regarder les séances d'entraînement de l'équipe qu'il entraîne. Et cette équipe, elle s'appelle la Juve.
Ouais, ouais.
C'est pas n'importe quelle équipe. Sincèrement, c'est même pas du culot. Je me demande s'il s'en rend compte.
Alors. On est bien d'accord. Et juste pour terminer, François, ouais. Petite instantanée de l'Allianz Stadium de la Juve cet après-midi. La courbe à soude de la Juve, donc le virage des ultras, a entonné un chant à la gloire de Massimiliano Allegri pendant que le reste du stade sifflait.
Ah, d'accord.
Vous donnez un petit peu quelle ambivalence on est à Turin.
C'est une bonne image qui explique pas mal de choses et qui résume pas mal de choses. Merci Johan, évidemment. On reviendra de Serie A avec des matchs intéressants demain. Inter Torino, Naples Roma, Atalanta, Empoli. Atalanta que l'on va suivre, bien sûr, puisque c'est l'adversaire de l'OM en demi-finale d'Europa League jeudi prochain. Merci beaucoup, coach. À très bientôt sur RMC. Merci Kevin.
Merci à vous.
Et merci à tous de nous avoir écoutés. 31e journée de Ligue 1 à suivre demain avec l'after de retour après Marseille-Lens demain soir. Bonne nuit à tous à l'écoute d'RMC.
RMC, l'after foot.